Merci beaucoup. Et à travers, et entre deux, trois conférences, vous pouvez venir faire un tour à Grand-Mère le jeudi soir, 13 avril, pour notre soirée musicale avec le groupe de musique de là-dessus, qui c'est de 19h à 20h30 à peu près. Et j'apporterai un message d'évangélisation pour l'occasion, puis nous autres, les journalistes, on aime ça, les scoops. Je vous donne le scoop de mon titre, ça va être « Je suis Barabbas ». Parce que vous savez, je suis Charlie, je suis ci, je suis ça, mais je pense que cette fois-là, c'est « Je suis Barabbas », donc je donne le scoop. Soyez les bienvenus, donc, une belle occasion d'inviter des contacts, parce que c'est vraiment le but, c'est l'évangélisation, mais avec une soirée musicale aussi de communion fraternelle et tout ça. Ce matin, ça fait drôle parce qu'on m'a dit que je concluais une série, mais dans le fond, je viens conclure une série avec une introduction. À une série que je suis en train de donner sur le sujet de retrouver mon enfant perdu. Je pense que ça, je peux changer la slide, comme on dit. Ou c'est moi qui... Non, je ne pose pas le lien, là. Ah, c'est pas pire. Allez, c'est stressant, ça. Je vois ça là. Donc, je suis en train de donner une série sur retrouver mon enfant perdu. Puis pourquoi je donne une série là-dessus, c'est que l'été dernier, je suis tombé, il commence à être magané, je suis tombé sur un livre, Reaching Your Prodigal, de Phil Waldrop. Puis c'est un livre qui a été publié en 2016, donc très récent. Puis ça m'a tellement encouragé, parce que moi et Francine, on a deux enfants sur quatre qui ne suivent pas le Seigneur. Puis ça m'a tellement encouragé que j'ai dit, j'attendrai pas que ce livre-là soit traduit, il faut que je le partage au plus grand nombre de parents. Et depuis ce temps, je suis en train de donner la série dans huit autres églises actuellement. Puis ce matin, dans le fond, je me sers de cette tribune-là dans votre série à vous pour, dans le fond, vous proposer l'introduction à cette série-là. Et si un jour ça vous intéresse d'en savoir plus, mais je suis disponible pour faire la suite aussi à Cap-de-la-Madeleine. Mais le but, de toute façon, ce matin, c'est de vous présenter l'introduction de ce sujet-là. Puis cette série-là, dans le fond, ma prière, quand je la donne, mais quand je la présente, c'est, vous savez, le 11 septembre 2001, il y a eu deux grandes tours qui se sont effondrées, ça, c'était quand même pas quelque chose de bien. Mais ma prière, avec cette série-là, pour les parents d'enfants qui ne suivent pas le Seigneur, c'est de permettre au Seigneur de détruire deux grandes tours dans nos vies. Comme parents d'enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ces grandes tours-là, c'est la tour de la culpabilité, souvent. Et la tour aussi du désespoir, parce que lorsqu'on a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ça vient décourageant, ça vient désespérant même. Et donc, cette série-là, en tout cas, ma prière, c'est que le Seigneur puisse enlever notre sentiment de culpabilité, mais aussi notre sentiment de désespoir, souvent, qui nous accapare comme parents. Et là, je vais vous demander un exercice d'humilité. Levez la main ceux qui ont un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Vous savez, partout où je vais, là, ça fait 8 églises que je fais. J'ai fait le même exercice au Cambrochet l'été passé. C'est une bonne majorité de parents qui vivent cette situation-là. Et donc, c'est pourquoi je pense que ça répond à un besoin, cette étude-là. Retrouver mon enfant perdu. Puis, je vous ai posé la question, qui parmi vous avait un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur? Faites par exprès pour prendre l'expression « suivre le Seigneur ». Parce que comme parents, souvent, on embellit la spiritualité de nos enfants. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « ouais, mon enfant est sauvé, mais il ne suit pas ». Non, ce n'est pas la définition biblique d'être un disciple de Christ, ça. Être sauvé, pas suivre. Alors, souvent, comme parents, on ne veut pas... on aime ça embellir la situation de nos enfants parce que ça nous fait mal d'admettre qu'ils ne suivent pas, puis ça nous fait mal d'admettre à la limite qu'ils ne sont pas sauvés. Et c'est pour ça que je parle de suivre le Seigneur, parce que combien voit-on de jeunes ou de jeunes adultes même venir dans nos églises sans suivre le Seigneur? J'espère que tous ceux qui sont ici appartiennent au Seigneur et vous suivez le Seigneur, quel que soit l'âge. Puis tu sais, il y a certains qui ont beau avoir été baptisés, certains ont beau avoir fréquenté les camps chrétiens, les écoles publiques à tour de bras, comme ils veulent. Le critère de Jésus pour être son disciple, c'est de le suivre. À Pierre, il dira, « Toi, suis-moi. » Et d'ailleurs, puis on va aller voir la parabole du fils prodigue ce matin, c'est le texte principal qu'on va voir, entre autres, dans cette introduction-là. Introduction à votre conclusion. Mais dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné, ceux qui connaissent la parabole, avait beau être demeuré dans la maison, son cœur était aussi éloigné que son petit frère que lui avait pris tout son bagage et était parti. D'ailleurs, certains appellent cette parabole la parabole des deux fils prodigues. D'entrée de jeu, moi, je rends grâce au Seigneur d'avoir permis que deux de mes quatre enfants viennent à lui et confessent son nom dans les eaux du baptême. Et quelle bénédiction que d'avoir un ou des enfants qui marchent dans la vérité, pour reprendre l'expression de 3 Jean 4. Puis même, je connais certains d'entre vous, puis je sais que certains d'entre vous, tous vos enfants sont sauvés, tous vos enfants suivent le Seigneur. Puis ça, je veux dire, quand on a un enfant qui suit le Seigneur, on doit rendre grâce au Seigneur. Puis on doit prier pour eux autres. Ils ont besoin aussi qu'on prie pour eux autres. Parfois, on s'attarde tellement à ceux qui ne suivent pas, parce que, mais souvent, ils nous causent plus de problèmes aussi, mais qu'on en oublie ceux qui suivent aussi dans nos familles. Mais rendons grâce à Dieu, puis si en plus toute notre famille est sauvée, rendez grâce à Dieu, mais pétez-vous pas les bretelles avec ça. Le mérite revient à Dieu. De la même façon qu'on ne doit pas s'attribuer le mérite quand nos enfants suivent, on ne doit pas se culpabiliser quand ils ne suivent pas. Et ça, c'est un des éléments de la série que je traite. Alors, si tous vos enfants, petits-enfants sont sauvés, marchent dans la vérité, soyez reconnaissants au Seigneur et ne permettez jamais à Satan de vous en accorder le mérite. C'est de la grâce. C'est de la grâce. Même mon épouse et moi, on est en mesure de comprendre la peine qui afflige les parents d'enfants prodigues. On va les appeler de même ce matin, ces enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Puis notre prière, continuellement, c'est évidemment que nos deux autres enfants se tournent un jour vers notre Seigneur Jésus-Christ en repentance et en foi. Et c'est la prière, je pense, de tous parents, que tous nos enfants soient sauvés, que tous nos enfants suivent, tous nos petits-enfants suivent. Parce qu'on serait tellement heureux de voir tous nos enfants sauvés, marcher finalement avec le Seigneur. Puis, on ne tourne pas tout de suite dans le texte, mais dans la parabole, dans Luc 15, Jésus parle de cette joie de retrouver ce qui était perdu. D'où le titre « Retrouver mon enfant perdu ». Mais dans Luc 15, on a tendance à oublier que Jésus va raconter deux autres paraboles avant celle-là du fils perdu. Il va raconter la parabole de la brebis perdue, puis de la drachme perdue. Et de cette joie, hein, de retrouver celui ou celle qu'on a perdu. Une joie qui contraste avec cette peine de voir nos enfants perdus ou éloignés. Puis c'est toujours bon de remettre dans le contexte pourquoi Jésus en est arrivé à prêcher, à parler, à raconter ces trois paraboles-là de la brebis perdue, la drachme perdue, du fils perdu. Et on ne tourne toujours pas dans le texte tout de suite, mais dans Luc 15, au début du chapitre, on voit que les pharisiens déploraient que Jésus accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et c'est pour ça que Jésus a été amené à parler de ces trois paraboles-là. Le contexte, c'est que les pharisiens regardaient Jésus manger avec des gens de mauvaise vie, des pécheurs, comme si eux, ils n'en étaient pas. Et en passant, le pharisien, se reconnaît, l'idée du fils aîné dans la parabole du fils prodigue, c'est pour pas mal refléter les pharisiens. Parce que le fils aîné disait, moi, je fais tout correct. Alors, pourquoi Jésus a raconté ces histoires-là, c'est qu'à un moment donné, les pharisiens l'accusaient de manger. Mais non seulement Jésus aimait ça, manger avec les pécheurs, mais il courait après ça, être avec les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il était venu chercher et sauver qui? Ceux qui étaient perdus. Puis, il ne faut pas oublier que dès leur naissance, tantôt, il y avait un beau petit bébé en avant de moi. C'est drôle, quand Benoît il a nommé mon nom, il commence à broyer. Ça commence mal la réunion, mais... Mais n'oublions pas que dès leur naissance, aussi beau puisse-t-il être notre beau petit bébé, puis on sait que notre bébé, c'est toujours le plus beau, ce beau petit bébé-là, il est perdu à la naissance. Il est pécheur. Il a une nature pécheresse. Il vient avec une nature pécheresse. Alors, la question que je pose ce matin est comment retrouver mon enfant perdu? Évidemment, le message s'adresse davantage aux parents ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, mais je pense qu'on peut retirer des leçons intéressantes pour tout le monde. Comment atteindre mon fils, ma fille prodigue? Vous savez, on élève, et là, je prends la situation peut-être plus régulière, ou en tout cas. Souvent, bon, on vient au Seigneur tardivement, puis nos enfants sont élevés, tout ça, puis on vit avec des enfants prodigues inévitablement, mais pour la plupart d'entre nous, on a vécu des vies chrétiennes, on a eu des enfants, on les a élevés dans la foi, on les a amenés à l'école dimanche, on les a éduqués, on les a enseignés, on les a envoyés dans un camp. Puis là, arrive un certain moment donné, 15, 16, 17, 18, puis là, oups, là, il arrive des décisions qui se prennent. Et là, les années s'accumulent pour certains d'entre nous, puis là, nos enfants, ces enfants-là, on suivent toujours pas le Seigneur, ont toujours pas donné leur vie au Seigneur, sont pas toujours revenus au Seigneur s'ils étaient vraiment sauvés. Alors, comment maintenant atteindre mon fils, ma fille prodigue? Alors, il y a deux questions qui hantent les parents d'enfants prodigues. C'est, qu'ai-je fait de mal? Donc, je vais vérifier si tout est correct. Qu'ai-je fait de mal? Une fois, je me suis posé, parce que, tu sais, on se dit la question, donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'ils ne suivent pas? T'sais? C'est intéressant, dans la série, il y a un point, il y a 6 principes dans la grande série sur ce sujet-là, mais un des principes, c'est enlever nos barrières aussi quand on veut que nos enfants viennent au Seigneur. T'sais. C'est que, effectivement, peut-être qu'on a fait des choses qu'on doit réparer, mais... Alors, il y a une première question qui se pose, qu'est-ce que j'ai fait de mal, coudonc, pour pas qu'ils suivent? Mais une fois qu'on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec mes jeunes qui ne suivent pas, mes jeunes adultes aujourd'hui? Une chose qu'on doit se rappeler, c'est que notre Papa Céleste ressent la douleur qu'on expérimente comme père ou mère d'un enfant prodigue. Oublions pas que l'enfant prodigue brise aussi le cœur de Dieu. L'enfant prodigue, il brise aussi le cœur de Dieu. Il brise notre cœur de parent, mais il brise le cœur de Dieu. Quand on pleure, bien, notre Papa Céleste ressent la chaleur de nos larmes. Quand on crie qu'on n'est plus capable d'en prendre, puis je dois confesser que j'ai déjà laissé échapper des... Tu sais, des tannés, là, tu sais, je le dis poliment, là, mais... Des fois, je ne sais pas si... Des fois, nos enfants nous font vivre des situations assez... c'est pas toujours le cas. Parfois, tu sais, nos enfants, même s'ils ne suivent pas, tu sais, ils ne causent pas de trouble, mais il y en a des fois, ça cause du trouble. Puis, des fois, il y a des situations où on se dit, ouais, je suis tanné. Là, tu sais. Mais lorsqu'on lâche un bon je suis tanné au Seigneur, là, tu sais, ben, il nous écoute. Il entend notre voix. Puis, tu sais, lisez les psaumes. Là, ça arrive souvent que David, il ouvre son cœur au Seigneur. Tu sais, puis, je pense que c'est bon d'ouvrir notre cœur au Seigneur lorsqu'on vit toute situation. Là, on parle des parents ce matin, toute épreuve, toute situation difficile. Mais rappelons-nous que Dieu veut plus que toi et moi, que celui ou celle que tu aimes revienne dans une relation correcte avec lui. Alors, nous, on veut que nos enfants soient sauvés encore plus, Dieu. Et pour nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et pourquoi, ben Jésus va raconter cette belle histoire. Là, je vous invite à tourner dans le texte, dans le chapitre, si vous avez votre Bible, dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Le chapitre 15 dans l'Évangile de Luc. Comme je le disais tantôt, c'est l'histoire d'un fils qui a suivi sa propre voie. Et tantôt, on ira voir le verset 11, mais... en passant, vous essayez de chercher dans la Bible le mot prodigue. Hein? Il n'est pas dans le texte. Tu sais, on dit tout le temps l'histoire du fils prodigue. Mais il est où, le fameux prodigue? Le mot prodigue, ben, tire son origine du mot latin signifiant gaspilleur. Je trouve que ça reflète bien l'histoire de l'enfant prodigue. Prodigue veut dire en latin gaspilleur. Et, on utilise ce terme pour décrire quiconque gaspille son argent, gaspille son temps, gaspille sa vie. Puis, les parents qui avaient un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, on s'entend-tu qu'on regarde aller nos enfants, puis on trouve-tu qu'ils gaspillent leur vie actuellement? Gaspillent souvent leur argent aussi, gaspillent leur santé, gaspillent leur temps, gaspillent leur vie. Ah, ça colle parfaitement à la définition de prodigue, ça. Gaspillent leur vie avec les choses de ce monde passagères. Puis Jésus avait toujours une raison pour raconter une histoire, puis c'était pas différent le jour où il a parlé de ce fils rebelle de Jean 15, 11. Et comme je vous l'ai déjà mentionné, il s'agissait de la troisième histoire d'une série de trois que Jésus a racontées dans une même occasion. La première histoire, on la lira pas dans les versets précédents, mais la première histoire, c'était celle d'un berger qui se réjouissait d'avoir trouvé une brebis perdue. La seconde était celle d'une femme qui était heureuse d'avoir trouvé une drachme perdue. Puis avec cette toile de fond de personnes qui perdent quelque chose, qui trouvent quelque chose de précieux, arrive cette troisième parabole. Une histoire au sujet d'un fils qui s'est éloigné de l'amour et de l'acceptation de son père. Puis en passant ici, ces trois histoires-là illustrent comment Dieu nous estime. Tu sais, on est précieux aux yeux de Dieu. Quiconque vous êtes ici dans la salle, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Assez précieux que le Seigneur, dans la parabole, va dire que le berger laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui manque. Il va tout faire. On est précieux. On est précieux. Dieu nous estime. Et c'est pour ça qu'il nous estime tant que lorsqu'on refuse de venir à lui, ça brise son cœur. Notre refus de l'aimer, de l'honorer, brise son cœur. Son amour et son souci constant pour nous démontrent combien il attend impatiemment les enfants prodigues de revenir à lui ou de venir à lui. Maintenant, quand on lit, puis c'est une histoire tellement connue, puis vous l'avez entendu plusieurs fois, un message sur le fils prodigue, puis quand on lit cette parabole-là, à partir du verset 11, c'est normal de s'attarder sur le fils quand on lit l'histoire. Mais je veux que vous portiez votre attention ce matin sur les paroles et les actions du Père et non celles du Fils. Je dis ça, puis je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de me rendre là, mais quand même. Et c'est pour ça que j'aime plutôt appeler cette histoire-là, au lieu de l'appeler la parabole du Fils prodigue ou des deux fils prodigues, j'aime bien l'appeler l'histoire d'un Père merveilleux. Lisez la parabole, c'est l'histoire d'un Père merveilleux. Et Luc rapporte donc les paroles de Jésus alors que l'histoire commence au chapitre 15, et là on commence à lire le texte, verset 11. Je lis dans la version Darby, premièrement parce que c'est un texte plus collé au littéral, deuxièmement, mais ma Bible elle se porte mieux dans mes mains, donc deuxième raison très technique. Donc Luc 15, 11, et il dit, c'est Jésus qui parle, « Un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient, et il leur partagea son bien. » Tout porte à croire que le père était un homme riche. C'était la coutume juive de cette époque que l'héritier le plus âgé reçoive les deux tiers des biens à la mort de son père. Les autres héritiers se divisaient le restant, donc dans ce cas-là, il y avait seulement que deux fils, donc on peut présumer, selon la tradition juive, que le plus vieux recevait les deux tiers, puis le plus jeune est parti avec le tiers. S'il y avait 10 enfants dans la famille, mais le plus vieux partait avec les deux tiers, puis les autres partageaient le tiers. Mais au lieu d'attendre que son père meure, c'est ça qui est la chose terrible dans l'histoire. Parce que qui dit héritage, normalement, t'as ça quand le père est mort. Bien, le plus jeune fils ne voulait tellement plus rien savoir de vivre avec son père, qu'il n'attend même pas qu'il meure. Dans notre langage, on dit qu'elle est effrontée. D'aller voir son père, puis il dit, « Père, je veux ma part d'héritage. » Le fils avait pris la décision de quitter et de prendre sa part des biens avec lui. Avez-vous déjà pensé que le père avait tous les droits de dire non? Nous, on lit ça, puis bon, on apprend qu'il... Il s'en va avec les biens, mais avez-vous réalisé, première réflexion à se dire, réalisons-nous ce matin que le père avait tous les droits de dire non à cette demande-là. Le père avait tous les droits de refuser sa requête, mais s'il avait dit non à sa requête, ah oui, le fils serait resté à la maison, mais il aurait été comme le fils aîné, son cœur n'aurait pas été là non plus. Je pense pas que je l'ai à l'écran, mais quand même, prenez-la en note. Qu'est-ce qu'on a déduit comme premier principe? Tous ceux qui sont parents ce matin, même si vous avez des jeunes enfants qui deviendront un jour plus grands. Quand on regarde ce que le Père a fait, le Père a dit oui à la demande du Fils. Un des principes qu'on peut prendre en note, c'est que le Père a permis à son Fils adulte de prendre ses propres décisions. Le Père a permis à son Fils adulte de prendre ses propres décisions. Ça, c'est la transition qui est difficile quand on est parent. Puis, tu sais, on est tous dans le même bateau quand on est parent. Là. On est tous dans la même école. Ils ne donnent pas de baccalauréat pour être parent. Là. On l'apprend sur le tas. On dit de quoi? Puis on a le tout dedans. On est magané. Tu sais, mais c'est quand même une transition difficile. Tu sais, quand nos petits. Tu sais, je me rappelle, moi, quand j'emmenais mes jeunes à l'école dimanche, puis à l'église, puis, tu sais, puis ça dit pas, ça chiole pas pour y aller, puis ta-ta-ta. Puis on les amène, ça grandit, ça grandit. Mais tu sais, il y a cette transition-là entre l'autorité parentale puis l'influence parentale. Tu sais, puis c'est pas facile de faire la transition. Tu sais, à un moment donné, on aime ça garder le contrôle le plus longtemps possible, mais à un moment donné, comme parent chrétien, il faut accepter qu'un jour ou l'autre, nos jeunes vont prendre leurs propres décisions pour Jésus-Christ. Puis, pour n'importe quel pécheur, on ne peut pas tordre le bras à quelqu'un pour qu'il accepte le Seigneur. T'sais. Alors, le Père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Puis, je pense que comme parents, puis ceux qui ont des parents, ceux qui ont des jeunes enfants aujourd'hui, préparez-vous psychologiquement, spirituellement, à laisser vos enfants un jour prendre leurs décisions. Est-ce que le Père a approuvé les actions du fils? Le texte ne dit pas ça pantoute. Tu sais, souvent, nos jeunes vont prendre des décisions, on les approuve pas. Hein. Mais ils prennent des décisions. Ils sont rendus adultes. Le Père n'a pas approuvé les actions du fils quand il est allé le voir pour demander son héritage, mais il a consenti à sa requête, puis il a donné l'argent. Est-ce que ça a fait mal au cœur du papa? De la même façon que lorsque notre enfant nous dit « Moi, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Moi, je ne veux plus aller à l'Assemblée. Moi, je veux vivre ma vie. » Ça, c'est la pire phrase qu'on peut entendre. « Je veux vivre ma vie. » Nous, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire « Je veux perdre ma vie. » C'est terrible d'entendre ça quand nos enfants nous disent ça. Alors, mettons-nous dans la place du père qui se fait demander cette requête-là par son fils, puis il lui donne l'argent. Tu sais, il n'est pas différent de nous, le père. Là, il n'est pas fait en bois. Là. Ça a dû venir le chercher. Là. Et quel que soit le montant, on n'a pas le montant exact de ce qu'il a reçu. Il a reçu des biens, possiblement le tiers de l'héritage, comme je le disais, selon la tradition. Ben, qu'est-ce qu'il a fait avec ces biens-là? On va lire l'histoire au verset 13. Et peu de jours après, regardez, le gars, il avait-tu hâte de s'en aller chez Jean pour ça? Surtout qu'il a eu l'argent, là, pas longtemps après, peu de jours après. Lui, il était prêt à partir, ça fait longtemps dans son cœur. Tu sais, souvent, nos jeunes, ils restent chez nous, pas parce qu'ils veulent rester chez nous, s'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, en passant. Là. Puis, mais des fois, quand ils s'en vont ailleurs, ils n'ont plus les moyens, ils reviennent chez nous. Mais c'est ça pareil. Tu sais. Mais lui, il avait l'argent, puis là, il pouvait s'en aller enfin. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, le lit dans la version Darby, là, c'est peut-être différent dans votre version, mais ça ressemble sûrement. Ayant tout ramassé, s'en alla dehors, puis là, pas seulement dehors, dans un pays éloigné. Le plus loin possible. Tu sais, là, il voulait vraiment plus être proche du père. Verset 13. Et là, dans ce pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous savez, je vais améliorer tôt ou tard un petit peu la typographie de ça. Peut-être que ce n'est pas si visible que j'aimerais l'avoir, mais je vous le dis quand même. Dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir ce matin. Dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'ils n'aiment pas. Et un pays éloigné, dans le cas du jeune homme, ici, dans l'histoire, c'était un endroit littéral pour ce jeune homme-là. Ça l'a séparé physiquement de son père. Mais indépendamment d'où sont physiquement nos enfants prodigues à nous, la séparation émotionnelle et spirituelle crée un faux sentiment de bonheur. Tu sais, quand nos jeunes disent, moi, là, je veux vivre ma vie, quand nos jeunes disent, même physiquement, ils s'en vont de chez nous, ou même s'ils ne peuvent pas s'en aller de chez nous, on sent qu'ils ne sont pas chez nous, ils ne sont plus chez nous, décident de ne plus venir à l'église, ou peut-être qu'ils viennent à l'église, mais on sait très bien que le cœur n'est plus ici. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se faire des illusions parfois sur nos enfants. Là. On ne gagne rien d'être malhonnête par rapport à la réalité spirituelle de nos enfants. Là. Arrêtons de se conter des histoires. Mais, tu sais, parfois la séparation, puis souvent il y a des jeunes de famille chrétienne, tout à coup on apprend qu'ils sont partis en Australie, ils sont partis au bout du Canada, ils sont partis partout. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce qu'ils peuvent vivre une vie chrétienne loin de... J'espère qu'ils peuvent vivre une vie chrétienne loin du foyer paternel. Mais souvent c'est un symptôme qu'ils veulent s'en aller le plus loin possible de... l'église locale, puis du foyer. Puis... Mais même notre jeune peut être de l'autre bord de la rue puis avoir un cœur aussi éloigné que quelqu'un qui est rendu dans l'ouest du Canada. Là. Et là, la séparation émotionnelle, spirituelle, crée un faux sentiment de bonheur. Hein? Là, nos jeunes qui ne suivent pas le Seigneur, là, ils disent, ouais, je vais faire ma vie, puis là, j'ai du fun, puis on est-tu dans une société qui veut avoir du fun? Puis là, qu'est-ce qu'il a fait le jeune? Il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Et imagine, il est jeune, full argent, je deviens indépendant, puis là, il y a du fun. Du fun selon le monde. Là. Sauf que, autre principe qu'on doit retenir ce matin, c'est que l'enfant prodigue a vite découvert dans l'histoire que toute décision, bonne ou mauvaise, ont des conséquences. Je me rappelle, je pense, mon frère Jacques Duguay, dans le fond de la salle, ici. Je me rappelle, je pense, ta grand-mère, à l'école du dimanche, il y avait un thème, à un moment donné. Je me rappelle un petit carton qui avait été donné aux enfants. On est libre de nos choix, mais on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Tout autre, c'est bon, ça. C'est vrai qu'on est libre de choisir ce qu'on veut. Bon, après ça, on ne peut pas choisir les conséquences de nos choix. Et là, l'enfant prodigue, puis... Tu sais, puis on voit nos enfants, nous autres, aujourd'hui, qui ne suivent pas le Seigneur, ils prennent des décisions, puis on sait que ça va aller dans le mur, ça va aller là, ça va masser. Mais ils ont des conséquences. Puis ça aussi, c'est un des principes, des six principes de l'étude. Jusqu'où j'aide mon enfant? C'est quoi l'équilibre entre l'amour inconditionnel, puis à un moment donné, le tough love, l'amour tough? Là, à un moment donné, on les laisse vivre les conséquences de leur choix. Parce que, tu sais, comme parents, on ne veut pas qu'il y ait de la misère, ça nous fait de la peine quand ils souffrent. Mais ça aussi, c'est des principes dans l'étude intéressants. C'est quoi l'équilibre que je dois avoir dans... C'est parce que, des fois, en les aidant, je ne les aide pas. T'sais. Alors, l'enfant prodigue a vite découvert que toute décision, bonne ou mauvaise, ont des conséquences. Nos enfants aussi, qui ne suivent pas le Seigneur, vont vite découvrir. Ils l'ont peut-être déjà fait, mais ils vont découvrir plus tard qu'il y a des conséquences à leur décision. On va lire les versets 14 et 15 et 16 pour voir les conséquences que réalise tout à coup ce fils qui, tout à coup, a eu du fun... Le temps d'un verset. Puis au verset 14, il va dire, « Et après qu'il eut tout dépensé, oui, en bon québécois, il est tout flambé. » Puis là, sûrement, il y avait un paquet de chums avec, parce que ça attire, tu sais, que quand t'es dans une place, puis tu payes la traite à tout le monde, là, tu sais, une petite tournée. En passant, je suis moi-même un enfant prodigue, parce que j'ai connu le Seigneur dans mes années de jeunesse. Mais de 17 à 27, j'ai vécu comme lui, malheureusement. Je ne le dis pas avec fierté. Jusqu'à ce que tant le Seigneur me mette à genoux à 27 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur, m'a donné une épouse, m'a donné deux gars. Elle avait deux filles en passant, donc une famille recomposée. On est en mesure de comprendre les familles recomposées aussi. Mais, alors, ça pour dire, j'ai été un enfant prodigue moi-même. J'ai connu le Seigneur jeune, mais de 17 à 27. Copier-coller, comme on dirait, malheureusement, de ce qu'on lit ce matin. Verset 14, « Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. » Alors, ce fameux pays où il était allé, tu sais, le gars n'est pas chanceux, il s'en va très loin dans un pays, puis là, le pays tombe en famine. Il n'y a plus une scène. Hey, là, quand tu dis que c'est la bad luck, t'as cours, là. Mais c'est pas de la bad luck, on sait que le Seigneur, il n'y a pas de bad luck ou de luck. Le Seigneur contrôle toutes choses. Alors, après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Il commença d'être dans le besoin, j'espère. Il n'y a plus une scène, mais une famine. Il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya. Se joignit, je pense, il y a un sens plus littéral. Il s'est collé après quelqu'un qui peut y trouver de l'argent, qui trouvait une job à un moment donné, tu sais, qui était dans le besoin. Il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Waouh, quel job! Et il désirait, verset 16, de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien en plus. Waouh! Les mauvaises décisions, là, mènent à la banqueroute émotionnelle. Autre principe que je veux vous suggérer ce matin, c'est que chaque enfant prodigue atteint un point où son plaisir tourne en famine tôt ou tard. À un moment donné, le party est fini. À un moment donné, les épreuves arrivent. Tu sais, chaque enfant prodigue atteint un point où son plaisir tourne en famine. Les mauvaises décisions mènent à la banqueroute émotionnelle. Autre principe, c'est que Dieu, dans sa sagesse, a conçu les conséquences du péché pour nous rendre désespérés. Dieu a permis ça comme ça. Dieu, dans sa sagesse, a conçu les conséquences du péché pour nous rendre désespérés. Parce qu'en passant, on ne peut pas venir au Seigneur, quiconque, là, jeune ou moins jeune, famille chrétienne, pas famille chrétienne, on doit être brisé pour venir au Seigneur. On doit désespérer de notre situation pour venir au Seigneur. C'est ça la repentance et la foi. Repentance envers Dieu, foi envers Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa sagesse, conçoit les conséquences du péché pour nous rendre désespérés. Souvent, nos enfants prodigues, les enfants prodigues essaient souvent de remplir le vide avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Tu sais, veux dire, supposons nos jeunes grandissent dans nos familles chrétiennes où nos jeunes on se font parler du Seigneur puis disent non au Seigneur, puis là, ils font à leur tête, font leur vie. Parfois, ça peut être des vies qui ne sont pas immorales. Parfois, ça peut être des vies rangées quand même, mais sont perdues pareil, là, tu veux dire. Puis là, c'est sûr que s'ils n'ont pas Dieu, ils vont essayer de combler le vide par d'autres choses. Puis là, on les voit dans la vie de nos enfants prodigues. Ça peut être les voyages, ça peut être l'argent, ça peut être le plaisir, ça peut être le travail, ça peut être l'ambition, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quoi. Le fun, la drogue, l'alcool, le sexe. Mais avec le temps, ils commencent à vivre seuls dans une porcherie au sens figuré, là. Et ça, c'est le fils. Mais pendant que le fils, là, il s'est éloigné de la maison, on voit qu'il a tout dépensé dans des bouches, on voit où il se ramasse les deux pieds dans le vase, pour être poli. À la maison, qu'est-ce qui se passe avec le père? Je me plais à imaginer, puis je pense que c'est pas mal réaliste d'imaginer que le père avait encore de la peine. Moi, ça fait X années que mes enfants ont manifesté le désir de ne pas suivre le Seigneur, puis j'ai encore de la peine de ça. Ça vient me chercher encore. Le jour où le père a vu son fils prendre l'argent, puis il avait parti avec son baluchon, là, ça a dû lui faire mal au cœur. D'ailleurs, le reste de l'histoire, on n'aura pas le temps de le voir ce matin, mais le reste de l'histoire, quand le fils revient, on s'est entendu que le père, il se précipite. Pourquoi il se précipite? Parce qu'il checkait. Je me plains d'imaginer que régulièrement, le père espérait voir son fils à l'horizon revenir. Moi, j'espère que mes enfants se tournent vers le Seigneur à chaque jour de ma vie. J'attends ce moment-là. Oui, reconnaissant pour les deux autres qui suivent, mais j'ai tellement hâte. Alors, le père, il a continué à avoir de la peine. Puis là, on ne sait pas combien de temps ça a duré, cet exode-là du fils prodigue. On peut penser que c'est quelques années, là, mais s'il y a eu de la peine au début, il y avait encore de la peine, là. Puis là, je me... Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, puis il n'y avait pas Facebook, puis il n'y avait pas téléphone, puis il n'y avait pas grand-chose pour avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais je me plais à imaginer quand même. Imaginons qu'un mot lui soit parvenu. Imaginons que le père, un jour, a eu des nouvelles de son fils. Son fils qui aime. Puis il entend dire que son fils, qui est parti avec un paquet d'argent, il est en train de nourrir des cochons. Il n'y a plus une scène. Tu sais, quand nos enfants vivent de la misère, que ce soit par leur propre faute ou non, ça nous fait mal. Et en passant, pour un homme juif, imaginez le père juif d'avoir un fils associé à des cochons. Dans la culture, c'est épouvantablement humiliant. Même que culturellement, c'était quasiment pire que toute dépendance ou tout comportement criminel ou toute immoralité sexuelle que d'avoir son fils avec des cochons. Et là, j'aime imaginer aussi, supposons que le père entend parler que son fils est dans la misère, que son père, son fils est en train de nourrir des cochons. Il n'y a plus une scène, il a tout dilapidé ses biens, premièrement. Il va être découragé de ça. Tu sais. Il est parti avec de l'argent. Là. Il n'y en a plus. Imaginez le père entend parler de ça, puis là, il commence à considérer toutes les options possibles. Ça l'aiderait-tu si j'y envoyais encore de l'argent? Je sais que j'ai donné son héritage, mais là, il est dans le besoin. Ça l'aiderait-tu si j'enverrais de l'argent? Ou si j'envoyais un serviteur aller y porter de la nourriture? Faites pas ça des fois, les mamans, même si vos enfants sont partis, vous donnez un petit clou. Faire un petit peu de laveur aux besoins des fois. Là. Je rentre dans un témoignage personnel, ça continue. Mais c'est sûr que si le père envoyait de l'argent, si le père envoyait de la nourriture, ça sortirait le fils de la porcherie. C'est sûr que ça mettrait fin à la honte familiale, parce qu'on s'entend dessus, ça devait être assez honteux pour lui, de ce que son fils le faisait vivre par la banque. Imaginez s'il y en a d'autres qui ont entendu parler que son fils nourrit des cochons. Ouais. Alors, c'est sûr que s'il y avait eu de l'argent, c'est sûr que s'il y avait eu de la nourriture, la honte familiale serait partie, le fils sortirait de la porcherie, mais savez-vous quoi, il restera encore un enfant prodigue. Le fils ne serait pas plus à la maison. Comme je disais tantôt, le père, personne ne sait combien de temps le fils a quitté la maison. Puis alors que les années passent, puis nous aussi les années passent avec nos enfants qui ne suivent pas, puis on se pose des questions, puis... Tu sais, je l'ai dit, la première question qui nous vient en tête, « J'ai-tu fait quelque chose de mal ?» avec cet enfant-là en particulier. Puis alors que les années ont probablement passé, mais le père, lui aussi, tu sais, il n'est pas différent de nous autres. Supposons qu'il a entendu parler que son fils est dans la misère, son fils est dans une situation misérable. Lui-ci a dû, tu sais, ça vous arrive-tu des fois la nuit de... Moi, ça vous trotte dans la tête un petit peu les... Peut-être avec moi qui ne dors pas dans la vie, mais en tout cas. Mais, tu sais, à un moment donné, dis-moi, tu penses à toutes sortes d'affaires. Puis là, le père a peut-être évalué chaque activité passée avec son enfant pendant qu'il était chez lui. Puis même, imaginez, là, le père, là, il s'est peut-être posé la question, j'ai-tu bien fait, coudonc, de donner ce fameux héritage-là? Ça se peut-tu qu'il y ait eu des regrets là-dessus? Un questionnement, au moins? Avec tout ce qu'il entend dire, ce qu'il est fait avec tout ça, puis comment il est rendu, j'ai-tu bien fait de se donner? Il a dû se poser la question. Si j'avais parlé plus avec lui quand il était chez nous, tu sais. Si j'avais passé plus de temps avec lui, ça aurait dû changer quelque chose. Si j'avais checké ses chums, son influence, est-ce que les choses seraient différentes maintenant? Bref, la culpabilité a probablement tourmenté le père à un moment donné. Ce que j'ai fait de mal. Où j'ai manqué. Et le temps a passé, puis finalement, l'enfant prodigue, pendant ce temps-là, pendant que le père, s'il y a eu des nouvelles, puis même s'il n'y a pas eu de nouvelles, on s'est entendu, il a pu se poser des questions pareilles. Tu m'as fait, là, il est parti, puis là. Finalement, l'enfant prodigue, lui, atteint un point où son désespoir tourne en brisement. Regardez les versets 17. Une belle partie de l'histoire, ça. Dans votre version, probablement, vous vous lisez « étant rentré en lui-même ». Je ne sais pas si c'est ça que vous avez dans votre version. Là. Mais la version Darby, je l'aime à cause de ça, pas parce que c'est une meilleure version. Toutes les versions sont bonnes, pour celle des témoins de Jéhovah, pour ça. Mais ici, là, j'aime bien la version littérale Darby qui va dire « étant revenu à lui-même ». Tu sais, à un moment donné, tu te secoues, puis tu reviens, tu reprends tes sens, là. L'expression « rentrer en lui-même », c'est bien aussi, puisque c'est une introspection, puis à un moment donné, tu réalises où tu es rendu, puisque c'est ce que tu as fait, là, mais « étant revenu à lui-même », il dit « combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, moi, je suis en train de crever de faim ici », version québécoise, mais « je péris ici de faim ». Verset 18, « je me lèverai, je m'en irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Vous savez, une leçon comme parent, c'est que le père sage savait que le brisement était le seul remède à l'orgueil de son fils. Et je pense que comme parents qui avons des enfants qui ne suivent pas, on doit apprendre de cette sagesse du père de l'enfant prodigue, mais aussi de la sagesse divine, de savoir que le brisement, c'est le seul remède, c'est le seul remède à tout pécheur. Parce qu'on est orgueilleux comme pécheur. On a besoin de briser devant le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude, c'est une béatitude qui invite à la reconnaissance de notre banqueroute spirituelle devant Dieu. Seul le brisement amènerait le fils à penser à la maison. Pas d'autre chose. Puis heureusement, le père s'est assuré qu'aucune barrière n'existait pour empêcher son fils de revenir, d'où un des principes que je vous disais, d'enlever nos barrières. Peut-être des barrières, il faut enlever aussi. Alors, la plus grande lutte pour tout parent d'enfant prodigue, c'est d'attendre que le brisement arrive. On a-tu hâte? Hein? Et c'est là qu'on doit être. Puis, entre autres, je vous ai dit que la série comprend 6 principes. Un des 6 principes, c'est faisons attention avec nos paroles. Tu sais, souvent, là, on est tellement amer avec nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur que souvent, là, on est tellement déçu ou tellement choqué par ce qu'ils font. Des fois, les paroles, là, ça ne vient pas aider les affaires là, pour qu'ils viennent au Seigneur. Ça, c'est un des principes qu'il faut apprendre dans cette série-là. Alors, le père, lui, s'est assuré qu'aucune barrière n'existait pour empêcher son fils de revenir. Puis en passant, tu sais, quand moi, il me reste 1 minute et quart, là, mais tu sais, quand il y en a qui quittent nos assemblées locales, puis à un moment donné, après instant, ils reviennent, là, c'est important de bien les accueillir, vous pensez? Parce que, tu sais, c'est du stock. Quelqu'un qui a quitté l'Assemblée pour X raisons, puis je pense qu'on devrait, on n'a aucune raison biblique de quitter les Assemblées, à moins vraiment d'avoir de la fausse doctrine ou l'immoralité dans l'Église. Là, mais supposons que quelqu'un quitte, puis bon, vit sa vie ou whatever, puis il y a un détour dans sa vie, mais il est sauvé, mais whatever. Mais il revient à l'Assemblée tout tard, après X temps, mais tu sais, c'est tout un défi de refranchir la porte. Fait que, comme Église locale, soyons prêts à accueillir ceux qui sont partis, puis prions pour ceux qui ont quitté nos Églises aussi. Ce sont des prodigues. Alors, la plus grande lutte pour tout parent d'enfants prodigues, c'est d'attendre que le brisement arrive. Puis, c'est pour ça que ça fait X années que nos enfants suivent pas le Seigneur, puis soyons patients. Puis, un des principes, 6 principes, la prière. Moi, j'ai fait 2 réunions de prière suite à ce principe-là, puis j'ai vu des hommes broyer dans l'église quand ils ont prié pour leurs enfants. Et on n'a pas à... Puis là, on doit attendre le brisement. On doit l'attendre, le brisement. On ne doit pas le provoquer. Comme je dis, on ne peut pas tordre le bras de nos gens, ni à quiconque quelque pécheur que ce soit pour qu'il vienne au Seigneur. T'sais. C'est Dieu qui brise le cœur. Puis souvent, là, par partir des entrevues que l'auteur du livre a faites avec plusieurs jeunes qui se sont éloignés, souvent, là, c'est 99%, c'est même plus les parents qui vont avoir de l'influence au retour de nos enfants ou à la venue de nos enfants au Seigneur, c'est des contacts chrétiens qu'ils vont rencontrer. D'où l'importance, quand on prie, Seigneur, mets des chrétiens sur sa route. Puis nos jeunes ont beau s'en aller au bout du monde, Seigneur peut y mettre un chrétien d'impact. Ça va se passer là. Parce que notre influence comme parents, comme chrétiens, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à leur parler de la Bible, mais tu sais, ils connaissent notre discours, ils connaissent tout ça. Là. Soyons sages avec ça. Mais prions pour le brisement. D'autres choses à dire, évidemment, parce qu'on n'est pas rendu à la restauration de le moment le plus émouvant suit dans les versets suivants du retour du fils à la maison. Écoutez, ce matin, je voulais vous présenter, pour finir votre série un petit peu à caractère familial les quatre dernières semaines, vous parler de ce sujet-là, mais c'est sûr que c'est une longue série. Je suis prêt à venir le faire, puis je m'invite pas parce que mais j'ai à cœur tellement ce sujet-là. Comme je vous dis, il fait déjà 8 églises que je fais, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. Là, puis. Mais que le Seigneur dirige, nous encourage. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Nos jeunes, tu sais, moi, j'avais vu un commercial un moment donné, je pense que c'était sur le suicide, puis ça m'avait tellement bouleversé, ce message-là, puis désolé d'avoir dépassé 2 minutes, là, il est 11h32. Mais, tu sais, ce commercial-là, lui montrait un jeune. L'annonce était faite comme ça. C'est dur de vivre avec un ado, c'est encore plus dur quand il n'est plus là. Wow! C'est un fait. Si nos jeunes, des fois, ça vient nous chercher, puis on vient tanner, ou whatever, les situations qu'ils vivent, mais imaginez, j'aime mieux l'avoir vivant, avec l'espoir qu'il sera sauvé un jour, que de ne plus l'avoir. Alors, prions pour nos jeunes. Alors, on va terminer par un mot de prière, d'ailleurs. Seigneur Dieu, merci pour le bon temps qu'on a eu d'abord à te contempler à la première partie de la réunion, puis t'es digne de louange. Seigneur, à qui irions-nous, tu vois, les paroles de la vie éternelle, puis Père, Seigneur, on te prie pour nos enfants qui ne te suivent pas, nos petits-enfants, il y en a qui ont des petits-enfants, peut-être à l'âge où de prendre des décisions, puis n'ont pas encore pris de la décision de te suivre, puis Père, avec toi et toi, l'espoir, parce que tant que la vie est l'espoir, puis c'est toi qui sauves. On te prie de briser nos jeunes, de briser nos enfants, de permettre tout ce que tu veux pour qu'ils puissent venir à toi. Donne-nous la sagesse, Seigneur, d'interagir avec eux dans nos paroles, mais aussi nous, de l'amour qu'on a à leur manifester, de l'aide ou pas qu'on doit leur donner. Seigneur, toi, t'es le papa idéal, t'es le papa parfait. Tu prends soin de nous, tu sais comment nous corriger, puis merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. J'espère que c'est une réalité pour chacun d'entre nous ce matin. Sauve toutes nos familles. Je te rends grâce pour ceux qui ont des enfants, tous leurs enfants sont sauvés. Il y a des familles où tous les enfants sont sauvés. Gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur, pour ça. Et on te demande de bénir le reste de cette belle journée au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen.